This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Vous écoutez le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juillet 2009 et c'est l'épisode numéro 12. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on traite de toute l'actualité technologie, internet, gadget. Aujourd'hui, on va avoir un programme chargé avec Sony, le système Android pour téléphone, le New York Times et des histoires de terroristes et aussi des grands classiques Amazon, Apple, Windows et toutes ces choses-là. Et comme toujours, j'ai avec moi des invités merveilleux pour m'aider à traiter de ces sujets. Ce sont les deux classiques qui sont là aujourd'hui, Yann et Jeff. Vous allez bien, les gars ?
Eh bien, écoute, ça va vachement bien. Hein,
Il y a une hésitation. T'as essayé d'être poli et d'essayer de parler Jeff en premier.
Bah ouais, parce qu'à chaque fois, c'est toujours moi. Donc du coup, je me dis, allez, tiens, vas-y, Jeff.
On t'entend pas, Yann. Ton niveau de son est descendu tout à coup.
Ah, d'accord. Désolé. Donc non, je voulais laisser Jeff pour une fois. S'introduire en premier, mais encore un anglicisme, désolé. Mais en tout cas, moi, je suis vachement content d'être là, comme d'habitude. Je suis vachement content de vous retrouver.
Eh ben, dites-moi, on commence sur les chapeaux de roue, on a perdu.
Et merci Yann pour l'intention gentille. Je vais le remplacer puisque manifestement on a disparu. Et en fait, j'étais en train de finir ma salade et c'est pour ça que je ne pouvais pas dire oui, Patrick, tout va très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et je vous reçois aujourd'hui de mon nouveau bureau à Palo Alto, où je suis super bien avec une grosse bande passante à moi tout seul.
Bravo, pas mal. Ah, t'étais à Palo Alto avant déjà ou pas encore ?
J'étais à Palo Alto, mais j'étais juste à côté de l'immeuble de Facebook, dans une start-up qui était à des copains à moi. Et puis là, je viens de déménager dans mes locaux à moi tout seul, dans le centre de Palo Alto, juste à côté de University Avenue, à côté de mon café préféré. Et donc, c'est super.
Palo Alto, la ville de la grande, du grand parc Palo Alto Research Center où Xerox avait développé les premières interfaces graphiques. Voilà.
Tout à fait. Et la souris.
Petit cours d'histoire, interface graphique, souris et même réseau Ethernet. Voilà pour vous. Alors, on a évidemment un programme chargé, comme je vous le disais. Et comme vous l'avez constaté dans cette intro, on est hyper préparé et hyper professionnel. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent que les podcasts, c'est pas professionnel. Là, franchement, on a fait la démonstration du contraire. Et on a aussi la chatroom qui est avec nous, comme d'habitude, sur le site Ustream, comme toujours. Salut à vous, la chatroom. J'espère que vous allez bien et merci d'être là avec nous. Ça nous fait toujours super plaisir. Et on va se lancer immédiatement dans le programme de l'émission. Alors, premier sujet, le truc qu'on ne peut pas éviter. D'ailleurs, moi-même, j'avoue que je commence à en avoir un petit peu marre, donc on va pas passer 2 heures dessus. C'est la mort de Michael Jackson, évidemment, dont on est tous un petit peu tristes, et l'impact que ça a eu sur le web. Parce qu'en fait, moi, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que j'ai entendu un petit peu partout que le web n'a pas tenu à la mort de Michael Jackson et qu'il y avait tellement de trafic que tous les sites du monde, enfin, bon, j'exagère peut-être un peu, mais qu'une bonne partie des sites étaient surchargé, n'arrivait pas à afficher les informations. Il y en avait qui étaient tombés, il y en avait qui avaient explosé, enfin, façon de parler. et moi, j'étais sur le net au moment où on a appris la mort de Michael Jackson, pendant les deux premières heures à peu près, j'étais sur Twitter, j'allais sur TMZ, j'allais sur CNN, MSNBC, etc. Et tous avaient l'air de tenir vachement bien, quoi. Twitter n'a pas fait de fail whale, TMZ a tenu alors qu'il était la source vers laquelle tout le monde allait. Et donc, j'étais un petit peu étonné qu'on ait ces impressions. Vous en avez entendu parler ? Vous étiez sur le web à ce moment-là ?
Ben moi, comme beaucoup de monde, j'ai appris tout ça via Twitter et effectivement, j'ai eu exactement le même feedback que toi, c'est-à-dire que je suis allé sur plusieurs sites, tous les sites ont fonctionné sans aucun problème et que ce soit sur Google News, sur TMZ, etc. Ce que j'ai remarqué, par contre, enfin ce que j'ai entendu ici et là, par contre, c'est que il y a beaucoup de sites qui ont considéré toutes ces connexions simultanées comme une attaque, comme vraiment une tentative d'intrusion sur les systèmes. C'est et donc du coup, en fait, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs personnes qui se connectaient simultanément et donc ils n'arrivaient pas à accéder au site. Mais c'est pas parce que le site est tombé, c'est juste parce qu'il a vu un tel flux arriver que il a considéré ça comme une attaque, quoi. Donc c'est pour ça que le site est tombé. Enfin, il n'est pas tombé, mais la page n'était pas accessible pour ces personnes-là. Donc voilà, quoi. Mais sinon, non, j'ai pas entendu vraiment de site qui soit tombé. Donc c'est vrai que ça me surprend assez, quoi. Et Jeff, toi, non, peut-être.
Oui, il y a eu quelques lenteurs, que ce soit sur les sites américains type News, Twitter. Bon, Google a publié qu'ils n'avaient jamais vu une telle masse de search sur aussi concentrée, donc sur Michael Jackson death, etc. Et on voit le pic de trafic sur ces mots-clés. C'est incroyable. Et aussi, le truc notable, c'est que ça a été la plus grosse recherche du monde du mobile. Donc, ils ont eu des searches qui venaient des téléphones portables, tels qu'ils n'en ont jamais vu.
Ouais, et pourtant, malgré tout ça, ce qui est intéressant de noter, c'est que justement, tout a tenu. Donc, moi, je ne comprends pas très bien. C'était un peu lent, c'est vrai, comme vous le disiez. Il y avait certains sites qui mettaient un moment à s'afficher, mais... Enfin, ouais. Donc, notre étude scientifique à nous du Rendez-vous Tech estime que Internet a très bien tenu le choc et je pense qu'on peut s'y référer dans vos différents documents et études journalistiques. N'ayez pas de crainte, vous pouvez nous citer. On pourra
mais il y a quand même eu des impacts négatifs avec cette histoire rapidement. C'est que bon, bien évidemment, rapidement, je crois que 7 ou 8 heures après, on a commencé à avoir une vague de spams qui se sont répandus sur le net. Donc beaucoup de gens se sont fait avoir. C'était des spams qui globalement vous disaient regardez les photos et les vidéos exclusives de Michael Jackson quelques minutes avant sa mort, et ça amenait à un trop de gens qui infectaient donc la machine. Donc il y a quand même eu des impacts négatifs par rapport à cet afflux de personnes qui allaient sur le net pour se renseigner sur l'événement. Mais il n'y a pas eu que ça ces derniers temps au niveau des impacts négatifs. Il y a aussi globalement Sony qui a quelques difficultés à communiquer avec Activision en ce moment, qui est très très mécontent des ventes de la PlayStation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, peut-être Jeff ou...
J'en ai un petit peu entendu parler effectivement, et je trouve que ta transition est excellente, mais je...
Mais... Parce qu'on est en... Moi, je voulais juste rajouter un truc sur Michael Jackson, c'est qu'effectivement, c'est assez notable que le spam est devenu complètement temps réel. C'est-à-dire que en même pas 2 heures, on avait les premiers trop jeunes qui disaient les dernières images de Michael Jackson avant sa mort. Il y avait aussi les rumeurs autour de la mort d'autres acteurs qui sont connus, puisque en fait le matin on a perdu Farrah Fawcett et l'après-midi on a perdu Michael Jackson.
Ouais, Farrah Fawcett, elle a été complètement éclipsée. Hein.
En fait, le matin, toutes les news étaient autour de Sarah Fawcett, machin, patin, couffin, et puis à partir de 13h30, 13h45, 14h, Michael Jackson, les premières rumeurs de la mort de Michael Jackson sont arrivées, et après ça a complètement emporté en fait la quasi-totalité du stream, des news de Twitter, etc. C'était autour de Michael Jackson. Moi j'avais une petite anecdote, j'étais en train de faire une interview avec Loïc de Gus de TF1, des gens de TF1 faisaient une interview dans les bureaux de Loïc. Ils ont eu un appel de Washington, Luc Lemaire, le CEO de Timic, et ils nous ont planté là. Ils devaient aller faire l'interview du consul de France à San Francisco. Ils l'ont appelé en disant désolé, Michael Jackson est mort, c'est plus important, on s'en va. Et les mecs ont disparu. Mais là, en 5 minutes, les mecs avaient quitté les bureaux. parce qu'il fallait qu'il monte dans le premier avion de manière à aller filmer la maison de Michael Jackson en live, quoi.
Ouais. Bon, c'est un petit peu déprimant cette histoire. Passons à autre chose. Donc, comme tu le disais, Yann, il y a eu une histoire entre Bobby Kotick, qui est le président d'Activision, qui est une société bien connue de jeux vidéo, et Sony, pour ce qui se passe au niveau de la PlayStation 3 et de la PlayStation Portable. Il y a eu une annonce de Bobby Kotick disant que si Sony ne changeait pas ses pratiques, Activision pourrait être contraint bientôt d'arrêter carrément le développement pour la PlayStation 3. L'argot dans la chatroom nous demande si c'est le propriétaire de Blizzard, et effectivement c'est bien d'eux qu'il s'agit, donc l'une des plus grosses sociétés de jeux vidéo au monde, qui va se plaindre que les conditions de développement sur PlayStation 3 ne sont pas tenables. Et Yann, je vois que tu as mis dans nos notes un gros « bien fait pour leur gueule ». Alors, ben ouais, peut-être que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit, en fait.
Non, mais honnêtement, moi je dis franchement Sony « bien fait pour leur gueule », parce que pour moi, Sony, c'est un petit peu l'Apple des consoles, avec les parts de marché en plus, bien évidemment, mais...
Comment il envoie.
Mais franchement, Sony, je les compare beaucoup à Apple parce qu'ils sont ont été extrêmement arrogants et moqueurs par rapport à leurs compétiteurs, surtout à l'époque de la PS2, qui était vraiment un calvaire d'un point de vue programmation. Le SDK était vraiment pitoyable. Et globalement, les développeurs s'arrachaient les cheveux sur la PS2, et la seule réponse de Sony par rapport à ça, c'était « Ben écoutez les gars, débrouillez-vous, on s'en fout parce que nous, c'est nous qui avons le monopole, on est leader sur le marché. Donc si vous voulez avoir une part du gâteau, ben vous avez qu'à vous débrouiller et apprendre à développer sur notre bouse, quoi. » Et donc,
d'une part, et puis il y avait aussi le fait que les coûts de développement étaient extrêmement élevés, n'est-ce pas ? Enfin, les coûts de développement, ouais. Les coûts de licence, quoi.
Si ouais, tout à fait, tout à fait. Et là, aujourd'hui, le fait de voir que les rôles se sont inversés et que ce sont les éditeurs maintenant, en l'occurrence Activision, qui met la pression à Sony sur sa PS3, Activision a dépensé des fortunes pour avoir les licences pour pouvoir développer sur PS3, et ils n'ont pas un retour sur investissement. Et le fait de voir quand même qu'ils arrivent à mettre la pression sur Sony comme ça, puisque c'est un petit coup de bluff comme ça, ben moi, je trouve ça vraiment délicieux comme spectacle.
Mais pour l'aspect un petit peu plus business, justement, je vais me tourner vers Jeff. Est-ce qu'il peut tenir son bluff, Bobby Kotick, ou est-ce que c'est juste un moyen de dire à Sony « bougez-vous parce que les choses ne nous conviennent pas » ou est-ce que c'est une vraie menace qu'il pourrait mettre à exécution ? Parce que ça paraît quand même gros de se dire « Activision va se priver du marché de la PlayStation 3 et de la PSP ». Même si, effectivement, ça leur pose des problèmes, est-ce qu'ils peuvent aller au bout de leur bluff ?
Bah, Bobby Kotick est une personnalité, il a un certain caractère, et donc quand il sort des trucs comme ça, quand tu vois un petit peu la position d'Activision aujourd'hui sur le marché, ce genre de menaces, ils peuvent les lancer, clairement. Si Sony dit « allez vous faire foutre », de toute façon, on va rien changer. À un moment ou à un autre, il va y avoir une escalade, et c'est difficile de reculer une fois que tu as pris une position comme ça. À mon avis, c'est de l'orchestration, hein. C'est pas quelque chose que tu vas lancer comme ça sans y penser. Donc ça veut dire qu'il est en train d'essayer d'obtenir quelque chose de Sony, et c'est une façon de le mentionner dans les médias pour monter la pression.
Mais si ton monde, tu crois que Bobby Kotick va dire carrément disons d'ici 3 mois, si Sony dit non, nous on est très content de notre situation, et Bobby Kotick dit bah non, il faut quand même machin, dans 3 mois il peut dire bon bah ok, on développe plus rien, Sony n'aura rien.
Ah, ce serait champagne.
À mon avis, il doit y avoir une discussion sur un prochain titre que développe Activision. Ils sont à la charnière, ou peut-être qu'ils sont à même d'avoir une exclusivité d'un autre côté. Enfin, tu vois, tout ça, comment tu déploies ton armée marketing, et comment tu mets la pression sur tes partenaires. Donc, s'il a demandé ça devant tout le monde, c'est qu'il y a des négociations sur quelque chose qu'il est en train d'essayer d'obtenir.
Ouais, a priori, il y a peu de chances quand même que ça aille au bout de la menace. C'est quand même un petit coup de bluff qui aura un effet, mais ouais, je sais pas si ça ira effectivement jusqu'à l'arrêt du développement, quoi. Ça m'étonnerait parce que
ouais, non, franchement,
ça paraît difficile.
Ouais, quand même.
Toujours dans le domaine des jeux, on a une autre histoire qui est le pauvre David Perry, qui est quand même quelqu'un d'assez, une personnalité assez notable dans le monde des jeux vidéo, qui est venu présenter, enfin qui a lancé une vidéo de présentation de son nouveau système qui s'appelle Gakkai. Et qu'est-ce que ça fait Gakkai? Ça fait un petit peu tout ce que fait OnLive, et qui a été présenté à l'E3 il y a quelques, pardon, pas à l'E3, mais il y a quelques mois déjà. Et déjà, on avait entendu parler de David Perry qui disait « Oui, oui, non, mais nous, on développe un truc pareil et on n'était pas prêt à le présenter, mais bon, du coup, maintenant, on va être obligé de dire des trucs. » Il était tout penaud parce qu'il fait un petit peu la même chose. Pour ceux qui n'auraient pas écouté les émissions précédentes, OnLive et donc Gakkai et même Otoy, qui est un autre outil de ce type, permet de faire tourner un jeu sur un serveur qui est loin de vous. Et vous contrôlez ce jeu avec une manette qui envoie les instructions jusqu'à ce serveur, et le serveur vous envoie uniquement l'image. Donc l'avantage théorique, c'est que ça vous permet de faire tourner sur la machine la plus simple, en tout cas de jouer sur la machine la plus simple, un jeu extrêmement complexe et extrêmement difficile à mettre enfin qui demanderait beaucoup de puissance de calcul. On avait évoqué la chose et Yann nous parle de OnLive comme d'un rêve impossible depuis un certain temps.
J'ai pas dit ça. Aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que, enfin, j'ai l'impression que c'est un effet de mode. Tout le monde se met à sortir son service de jeux en streaming, OnLive, Otol, Gakkai. Ils sont tous en train d'en sortir un. Pourtant, personne n'a répondu aux mêmes questions qui reviennent encore et encore concernant ces technologies. Ils n'ont jamais répondu aux problématiques de comment un utilisateur va faire pour uploader ses mods, comment il va faire pour uploader ses maps.
Alors, Je vous ai entendu dans ton podcast Bande de Noobs discuter de la chose, et la première chose à laquelle vous avez sauté, c'était alors les mods et les maps et les machins, et comment on va faire c'est pas à ce genre de personnes qu'ils s'adressent. On parle de
ah d'accord
de
donc
joueurs,
ils s'adressent à personne en fait donc.
Non mais par exemple, est-ce que tu crois qu'il faut absolument uploader des mods et des maps sur un jeu Xbox pour qu'il rencontre le succès? Non, bien sûr que non. Et d'autre part, ne refaisons pas le débat sur le produit en lui-même. Moi, je pense qu'il aura une certaine application et que ça marchera pour un certain type de jeu, pas les plus rapides évidemment, mais pour un certain type de jeu. Mais
pour le jeu, il faut des réflexes.
Mais
donc une bonne partie.
Non, on est d'accord. Mais la question que je voulais te poser, en fait, c'est ça ne te convainc pas du tout le fait qu'il y ait plusieurs sociétés différentes qui présentent ce type de projet? Tu ne penses pas que la technologie est envisageable dans certains cas, et tu penses que les gens qui investissent là-dedans sont tous en train de jeter de l'argent par les fenêtres, quoi?
Écoute, Patrick, j'ai fait une petite recherche rapidement aujourd'hui sur le net par rapport à ça. J'ai cherché le nombre d'utilisateurs au monde qui étaient connectés à Internet, le pourcentage de terriens qui sont connectés à Internet. D'après le site Internet WorldStat, je mettrai le lien si tu veux, on est 24% sur Terre à être équipé d'une connexion Internet, tout type de connexion confondue, hein, de la connexion la plus pourrie à la fibre optique. Un autre pourcentage, c'est le nombre de terriens qui jouent aux jeux vidéo. Et là, on est à 70%. 70% des terriens déclarent à un moment donné, dans l'année, de temps en temps, jouer à un jeu vidéo. 24% d'un côté, 70% de l'autre. Comment veux-tu qu'un service comme OnLive Otoy puisse répondre à ces 70% alors qu'il n'y en a que 24 qui sont connectés à Internet? Et encore, dans les 24, je compte les gens qui ont une connexion complètement pourrie. Hein, donc,
disons que 70% de tes 24%, on tombe à peu près à, je ne sais pas, 700 ou 800 millions. Ça fait quand même un marché intéressant à essayer de récupérer, 800 millions de personnes sur Terre.
Et c'est pour ça que je dis que je ne dis pas que ce truc-là n'a pas d'avenir. Je dis simplement que ça ne peut pas remplacer à court, moyen et même long terme les consoles de salon. Quand tu regardes les démos techniques, c'est pas possible.
Non, mais je crois qu'on se trompe de débat.
C'est un truc concurrentiel.
L'idée n'est pas.
Mais ça cherche pas à les remplacer, je pense. Oui.
Oui, c'est ça.
Ah, ben, quand on entend le discours, c'est oui, c'est la solution. Après, il n'y aura plus de piratage, il n'y aura plus ceci, plus cela. Il le propose vraiment comme la solution qui va régler tous les soucis des consoles de salon et des problématiques qu'on a sur PC. En tout cas, c'est comme ça qu'il le vend.
Les arguments restent les mêmes. Donc, à moins que Jeff ait son mot à dire aussi.
Oui, le mot à dire, c'est qu'aujourd'hui, personne ne développe des applications qui sont ce que j'appellerais les méga broadband, donc celles qui vont tirer parti d'une bande passante de 20 mégas, 30 mégas, voire la bande passante de fibre optique, et que typiquement ce genre d'application où tu vas avoir le hosting de l'exécution de tout ce qui est computing et display sur des serveurs en remote, et la seule chose que tu vas faire passer sur le réseau, c'est ton display, en gros c'est la vieille technologie X11 remote desktop qui date de...
Ah, c'est vieux comme le monde, ce truc-là.
1987-88, si je me rappelle bien. Eh bien, c'est juste une version...
Les amateurs s'en souviendront, ouais.
C'est, oui. Oui, les premiers terminaux X11 datent de ce moment-là, si je me rappelle bien. Parce que j'étais petit, mais je travaillais déjà sur les terminaux X à l'époque. Et c'est juste une mise en place aujourd'hui d'applications qui vont bouffer énormément de bandes passantes, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on va avoir la bande passante. Donc je pense que c'est une approche assez intéressante.
Bon, je pense que ça restera la saga du rendez-vous tech, et dans quelques années, quand on aura le résultat, on s'en souviendra encore.
Je vous le rappellerai.
Autre petite nouvelle qu'on a eue, c'est le retour d'une sorte de d'Arlésienne qui avait fait parler d'elle il y a environ un an, je crois. C'était une sorte de téléphone fabriqué par Dell. Dell faisait il y a très longtemps des PDA, à l'époque où c'était encore des PDA. Comment ils s'appelaient ces machins qui étaient un petit peu horribles, les vous vous souvenez du nom des PDA Dell? Axiom ou je sais plus.
Je me rappelle de la forme qui était complètement haineuse.
Je sais plus comment ça s'appelait ces trucs là, Adium ou OS. Je sais plus.
Et donc il y avait un la chatroom, vous pouvez pas nous aider non pour le nom du PDA.
Axiom, non, c'est
Axiom,
pas ça. Axiom,
oui, c'est possible. Ouais. Enfin bref, donc il y avait des rumeurs comme selon lesquelles Dell s'attaquerait au voilà, Axiom confirme la chatroom, selon laquelle Dell s'attaquerait au marché du téléphone portable, puisque aujourd'hui, comme tout le monde le sait, et particulièrement avec l'iPhone, les téléphones portables ne sont rien d'autre que des mini ordinateurs. Et les rumeurs avaient été retombées au bout de quelques mois. Eh bien, il semblerait que le projet ait été ressorti des cartons, mais sous un jour un petit peu nouveau, parce que s'il utiliserait bien le système Android, donc le système d'exploitation pour mobile de Google, dont on a déjà eu l'occasion de parler, ça ne serait pas un téléphone portable, mais simplement un objet, un lecteur multimédia comme un iPod Touch, ou bon, il en existe d'autres évidemment. Ils appellent ça un mobile internet device, donc un gadget pour l'internet mobile. Et évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est la voix sur IP, donc un logiciel comme Skype qui permettrait d'utiliser également une sorte de pis-aller de communication téléphonique de temps en temps, mais couplé à un réseau comme celui de Free, par exemple, en France, on pense à ça, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Dans la chatroom, S. Morak nous demande est-ce qu'il sera en 3G. Non, justement, ça ne sera pas du tout un téléphone, il n'aura aucune fonctionnalité téléphonique de réseau téléphonique. Il aurait juste une antenne Wi-Fi qui, comme vous le savez, n'a rien à voir avec le réseau de SFR, Orange ou Bouygues. Ça laisse un petit peu perplexe quand même cette idée. C'est le retour du PDA. Est-ce qu'il y a une application?
C'est un iPod Touch, quoi. C'est comme un iPod Touch.
Ouais, voilà. Donc, mais pourquoi faire ça et ne pas rajouter l'aspect téléphonique? C'est un choix bizarre. Moi, je le comprends pas.
Hein. J'aime bien l'argot 2694 qui dit « ça sert à rien ». Je pense que là, on a tout bien résumé sur ce sujet. Non, honnêtement, moi, je suis pas vraiment fan. D'ailleurs, j'ai toujours cru que l'iPod Touch ne se vendrait jamais. Je voyais pas du tout l'intérêt d'un bijou technologique comme ça qui n'avait pas de connexion, enfin, qui n'avait pas la 3G. Alors que ce serait tellement simple, enfin, pas forcément simple, mais ce serait tellement plus utile d'avoir un Dell Android Android comme ça, avec un accès 3G, un petit peu comme ce que fait Amazon avec le Kindle finalement, qui a son accès 3G et qui permet de se connecter en mobile sans abonnement avec un opérateur téléphonique. Donc je le verrais plus dans cet esprit-là, moi.
Bah, non, je pense que le segment qu'il vise, effectivement, c'est l'iPod Touch, qui est un succès absolument monstrueux, c'est-à-dire qu'ils en vendent des millions et des millions aux alentours de Noël et des grandes dates. C'est le portable music player, le truc qui va jouer de la musique et que tu peux trimballer avec toi. Et c'est quelque chose qui est extrêmement populaire. Quand tu vois aujourd'hui les stats des applications qui tournent donc sur l'OS iPhone, sur TapTap Revenge, donc qui est la plus grosse application avec 10 millions d'installs, je crois qu'on a un tiers d'installs sur l'iPhone, deux tiers sur l'iPod Touch. Donc c'est un marché qui est monstrueux.
Ouais, donc le marché existe bien, mais pourquoi s'attaquer uniquement au marché sans téléphone quand on pourrait, peut-être parce qu'ils visent le marché corporate et que dans les corporate tout le monde a des BlackBerry déjà, donc mais en même temps s'ils visent le corporate c'est un petit peu étrange de, enfin je sais pas, je comprends pas.
C'est vrai
bien,
que c'est vrai que c'est vachement bizarre parce que dans le monde du corporate aujourd'hui tu vois une énorme pénétration de l'iPhone. Là avec l'iPhone 3GS le tout dernier, j'ai plein de copains qui ont dit bon ok ça y est j'ai compris, je range le BlackBerry et je passe à l'iPhone. Donc je pense que cette dernière version a vraiment attaqué le marché du corporate en direct, et j'ai du mal à voir pourquoi est-ce que Dell, qui est quand même une marque très présente sur le corporate, essaierait de se positionner sur le gadget internet, quoi, parce que c'est vrai c'est très bizarre.
Bah, surtout qu'après la période de transition où tous les téléphones vont finir par avoir des fonctionnalités du type application, il y aura vraiment plus d'intérêt à avoir ton truc avec application d'un côté et ton truc qui fera téléphone de l'autre, quoi.
C'est vraiment clair.
Bon, ceci dit, peut-être qu'ils se disent commençons lentement. Justement parce que le téléphone est tellement simple à rajouter, ils se disent on va commencer avec un petit truc comme ça qui n'a pas de téléphone, et ensuite en deux coups de cuillère à peau on peut rajouter un téléphone et le machin sera déjà là, ça sera pas si compliqué de rajouter un téléphone, donc faisons les choses petit à petit. Peut-être.
Bof. Ouais, peut-être. Ouais.
Bon, on est tous perplexes. Hein. au niveau d'Android, on a une autre info qui était arrivée il y a quelques temps, c'est que si on fait le bilan du nombre de constructeurs qui ont décidé d'utiliser le système Android, eh ben on a plusieurs dizaines de téléphones qui utilisent le système Android de Google d'ici Noël. C'est-à-dire que là, on n'en a encore que un ou deux aujourd'hui. L'invasion est véritablement en préparation et il est très possible que Android s'impose comme l'un des standards, on ne va pas dire le standard, mais l'un des standards des téléphones mobiles qu'on appelle smartphone, donc un petit peu, qui font un petit peu plus qu'un simple terminal téléphonique. Google, le Microsoft du monde de la téléphonie, c'est possible ?
J'y crois pas trop. J'y crois pas. En fait, Android,
mais en fait, t'es sceptique pour tout, toi, Yann. Non, c'est de la merde. Non, ça sert à rien.
Mais attends, j'étais quand même d'accord avec toi sur le fait que le Dell Android, là, on n'était pas tous les deux convaincus. Enfin, je pense qu'on était tous d'accord là-dessus. Donc,
oui,
je pense qu'on a un petit terrain d'entente là-dessus.
Quand nous, on est morose, tu l'es aussi.
Non, il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment très très enthousiaste, mais bon, c'est tellement plus sympa de parler des sujets polémiques où on n'est jamais d'accord. Enfin bref, mais sinon, juste pour revenir sur le côté Android, ça a longtemps été annoncé comme le killer de l'iPhone, etc. Ça fait un moment quand même que l'Android il est sorti, et pour le moment, j'ai toujours pas vu de killer app ou de téléphone de folie, et j'ai l'impression que c'est un diesel, quoi. Le truc, il a du mal à démarrer. Palm, ils sont en train d'arriver avec le Palm Pre. Là, tu as l'impression d'avoir un véritable concurrent. Le seul Android que j'ai eu l'occasion de voir, c'était une brique qui faisait facilement 10 cm de haut. C'était vraiment, on dirait,
une chaussure. Le téléphone de Corben qu'on a eu.
Ah, j'ai pas voulu nommer le nom, mais bon.
Ah bah, il aime beaucoup, lui. Hein.
Android, c'est quand même assez. Enfin, ils ont vendu quoi, 8 à 10 millions de téléphones quand même?
Ouais, c'est pas rien. Ça reste marginal par rapport à l'iPhone. Enfin, quand tu vois le
faut bien commencer quelque part.
Ouais, mais j'attendais plus, quoi. Mais par contre, l'OS, lui, enfin, j'ai testé l'OS, c'est génial. Mais le problème, c'est que quand tu fais des systèmes d'exploitation pour mobile comme ça, de façon complètement indépendante d'un téléphone, ben, le mariage entre les deux, l'expérience utilisateur, elle est pas forcément au rendez-vous. Si tu prends le cas de l'iPhone, l'OS a été pensé pour l'iPhone et le système d'exploitation et le périphérique ne forment qu'un. C'est uni, c'est parfait, c'est limpide, c'est fluide. Alors que.
Non, mais
pour le coup, c'est vrai.
Non, mais je suis d'accord avec toi, oui.
Alors, je ferai remarquer, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Yann. Hein, moi, j'ai rien dit, moi, encore.
Vous m'avez reproché de ne pas être positif, alors j'essaie de pousser un petit peu.
Tu comprends. Jeff, tu parlais du Pré, justement, et tu as eu l'occasion de l'utiliser toi-même, le fameux Palm Pré qui était censé concurrencer l'iPhone très sérieusement.
Oui, j'ai été, donc 2 ou 3 jours après qu'ils soient sortis, j'étais le chercher chez Sprint. Ils n'en avaient pas, parce qu'ils ont en fait, ils ont fait un manufacturing de pas énormément d'unités, donc il fallait que tu rentres.
On a parlé de 400 000, je crois, ce qui est assez.
Quelque chose comme ça. Ils n'ont jamais véritablement dit combien est-ce qu'ils en avaient effectivement construit, mais il faut savoir que Palm n'a pas énormément de ressources financières, donc ils ne pouvaient pas faire une chaîne de 1 million d'unités sans être sûr qu'ils pourraient les vendre. Et donc je l'ai récupéré au bout de 3-4 jours, je l'ai essayé. En gros, l'OS, j'aimais bien, c'était assez sympa, la notion du multitâche, les applications étaient vraiment pas mal. Le problème, c'est qu'ils ne supportaient pas les options de sécurité d'Exchange. Donc moi je suis sur Microsoft Exchange, et donc en gros c'est le Pré, pour moi c'était un téléphone qui faisait du SMS et du browsing, mais je pouvais pas lire mon email, et donc au bout de 24 heures
internet et
au bout de 24 heures je l'ai rendu.
Tu l'as rendu?
Bah oui, parce que pour moi un téléphone qui est un téléphone qui envoie des SMS et qui permet de browser, et qui a un client Twitter, c'est le minimum, mais s'il n'y a pas l'email, ça ne me sert à rien.
Ouais. Donc, enfin, moi, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ce que tu viens de dire, c'est est-ce que tu as trouvé dans le Palm Pre qu'il y avait des trucs, des problèmes qui ne pouvaient pas être réglés avec un patch? Parce que là, tout ce que tu décris, c'est des trucs qu'on peut facilement corriger avec un petit patch dans 2 ou 3 mois. Est-ce qu'il y a quelque chose de matériel ou une philosophie du système d'exploitation qui font que ça te rebute directement et qu'il y a très peu de chances que ce soit réglé? Ou est-ce que dans quelques mois, ça pourrait être un véritable concurrent pour l'iPhone?
Alors, ce que j'ai bien aimé, c'était l'OS, je trouve qu'ils ont fait un très très bon boulot avec la façon dont ils ont organisé les applications, comment tu vas naviguer au travers de différentes applications, au sein des applications, etc. C'était relativement rapide pour un truc qui est multitâche. Cela dit, je l'ai pas utilisé de façon monstrueuse. Le problème, c'est que sans mon email, sans ma base de contact de 4000, 5000, 6000 noms, et en gros ce qui va typiquement charger le téléphone, je peux pas vraiment te dire oui, c'était rapide, c'était pas mal. Le browsing, la qualité du browsing était assez sympa, c'était raisonnablement rapide. J'aimais pas le clavier, j'ai trouvé que les touches étaient trop proches les unes des autres, elles étaient pas franches, donc j'avais du mal à me retrouver sur ce clavier. J'aime mieux le clavier des BlackBerry typiquement. Le plastique faisait un peu cheap, c'est-à-dire que c'était pas un plastique de grande qualité, t'avais plein de traces de doigts au bout de 5 minutes parce que c'est je sais pas, c'est la texture du plastique n'était pas géniale. En termes d'OS, je suis d'accord avec toi, c'est possible de faire des patchs. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que Palm, sachant que voilà, ça c'est beau ça, il y a Patrick qui montre son iPhone.
je montre mon iPhone à la Palm, chatroom en attendant.
Sachant que ils auraient ce problème avec le monde du corporate, parce qu'aujourd'hui, qui est-ce qui va se précipiter sur le prêt? C'est les gens qui sont chez Sprint, puisqu'en fait, il y a le seul Sprint aux États-Unis, était le seul carrière qui avait des prêts, et donc les gens qui sont dans la préhistoire chez Sprint, ils se sont jetés sur le prêt, parce que un prêt, c'est un cadeau de Dieu pour eux, tellement ils étaient
Oui, parce qu'il faut savoir que Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'iPhone n'est disponible que chez AT&T. Et,
que chez AT&T, tout à fait.
Voilà, et le Sprint est un opérateur téléphonique qui n'avait pas de téléphone intéressant, hormis le prêt qui vient de sortir, quoi.
Ouais, si dans le monde du corporate, t'avais des BlackBerry. Donc mes copains qui sont chez Sprint, ils sont en larmes à avoir un prêt parce qu'ils sont enfin en 2009 et ils sont contents, ils peuvent montrer leur téléphone. Mais je ne connais personne, sauf un ou deux copains qui avaient besoin d'avoir les deux ou les trois parce que ils travaillent dans le monde du mobile. Je ne connais personne qui a switché d'un iPhone vers un prêt.
Et le dans le monde de l'entreprise. L'immense majorité des gens sont sous Exchange, comme tu le dis. Donc, s'il ne tient pas Exchange. Ceci dit, il faut être honnête et dire que l'iPhone, à l'origine, ne gérait pas Exchange non plus.
Mais, il me semble.
Mais on peut se demander si, oui, à l'origine, l'iPhone n'avait pas l'App Store, n'avait pas les applications, n'avait pas ceci, cela. Eh ben, il n'empêche qu'aujourd'hui, il les a. Et c'est aujourd'hui que sortent les téléphones qui sont en concurrence avec lui. Donc...
Et c'est ça la question, c'est quel est le positionnement du prêt ? Est-ce que c'est un meilleur téléphone que tout ce qu'il y a aujourd'hui chez Sprint ? Absolument, il n'y a aucun doute, c'est un très bon téléphone. Est-ce que c'est meilleur que l'iPhone ? Même pas en rêve. Et je te dis ça, même pas en rêve par rapport à l'iPhone 3G. Si tu considères l'iPhone 3GS, qui est plus rapide, qui a plus de mémoire, qui fait de la vidéo... avec une qualité qui est vraiment super étonnante, là, on n'est pas sur la même planète, quoi.
D'accord.
Objectivement.
Bon, concluons cette partie sur les téléphones en parlant de la dernière rumeur qui est le fait que Sony préparerait sa PSP Phone, donc une sorte d'hybride entre une PlayStation portable et un téléphone, ce qui ne serait pas si surprenant que ça vu la direction que prend la PlayStation portable Go qui télécharge ses jeux. Yann, ton commentaire, c'était n'importe quoi.
Non. Mon commentaire, c'était n'importe quoi, mais pour un autre truc, en fait.
Ah.
Mais peut-être que dans les copier-coller, je me suis embrouillé. Mais par rapport à la PSP Phone, moi, ce que je pense, c'est que... Alors, c'est peut-être une bonne idée, mais je pense que Sony doit vraiment se focaliser sur l'aspect... casual gaming des consoles portables. Moi, aujourd'hui, j'ai une PSP et une Nintendo DS. Le problème de ma PSP, c'est qu'ils se sont contentés de porter les jeux PS3 sur PSP et c'est d'un ennui mortel. Tu ne consommes pas une PSP comme tu consommes une console de salon. Nintendo l'a très bien compris avec la Nintendo DS. Tu peux jouer à un jeu pendant 3 minutes sur DS. Tu t'éclates. Ouais. Sur une PSP, tu te fais chier. Donc,
je pense qu'avec la nouvelle direction qu'ils prennent, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein, mais...
Ben j'espère, mais le côté téléphonie avec la PSP, pour moi, c'est secondaire. Il faut vraiment qu'ils mettent l'accent sur le côté interaction avec l'appareil. Et après, le côté téléphone, ben, ce serait cool, mais c'est pas la première feature pour moi.
Moi, ce qui me fait un petit peu peur avec cette histoire, c'est je crains que Sony se dirige dans cette direction avec l'esprit de la PlayStation et du tarif élevé de l'application. Et là où, encore une fois, je suis désolé de parler d'Apple en permanence. Hein, si il y a des auditeurs que ça irrite, je le comprends. Il n'empêche qu'ils ont inventé beaucoup de choses avec ce marché. Bon, inventer est peut-être un terme un peu fort, mais populariser beaucoup de choses. Mais là où ils font très fort, c'est que les applications sont très très bon marché. Je ne sais pas si les développeurs et Sony en général réussira à baisser le prix de ces applications à un petit euro ou 2-3 euros pour certaines applications légères. Bon allez, on referme la page téléphone portable qui était quand même assez longue et on passe à notre ami Amazon qui a déposé un brevet pour mettre des pubs dans le Kindle. Alors le Kindle, on vous en a beaucoup parlé, c'est cette sorte de livre électronique qui est très populaire aux États-Unis. Et ce que ça voudrait dire, c'est qu'il y aurait sur les livres que vous lisez des petits endroits où apparaîtraient des bandeaux publicitaires dans un livre. Ça a fait hurler beaucoup de gens. Le point positif, c'est que ça sait, l'appareil en lui-même sait où vous êtes. Donc, il peut vous dire, par exemple, mettre en relation le livre que vous êtes en train de lire et l'endroit où vous êtes. Si vous êtes en train de lire un roman andalou, par exemple, il vous conseille un resto espagnol qui est à côté. Et si vous aviez envie de manger des tapas, vous pouvez y aller, quoi. C'est bon. Moi, franchement... j'ai une petite réaction épidermique à l'idée de me dire dans mon livre il y a une pub et Marlock dans la chatroom nous dit tu veux lire la page 254 achète des pizzas dell'arte. Forcément, effectivement ça. Mais finalement, pourquoi pas ? Et on pourrait imaginer des systèmes genre tu payes le livre et t'as pas de pub, t'as le livre gratuit et t'as des pubs dedans, ce genre de
choses. Justement, c'est ça le truc, c'est que tu vas avoir
le Kindle gratuit qui va être payé par les sponsors et ensuite tu vas consommer le livre ou les différentes publications comme le New York Times, etc. Mais aujourd'hui, au lieu de payer 399 ou 499 dollars pour un Kindle, si tu pouvais l'avoir gratuitement, qu'est-ce que tu dirais?
Quand tu regardes globalement, à chaque fois je fais le rôle de service, mais c'est vraiment une tendance générale quoi. Tu regardes dans les jeux vidéo, t'as de plus en plus de pubs qui sont intégrées au jeu. Alors on te dit c'est pour l'immersion, etc. Mais l'empêche que c'est vrai. Tu regardes la Xbox 360 aujourd'hui. Enfin, Microsoft vient d'annoncer il y a quelques jours qu'ils vont intégrer pour les gens qui ont le compte Xbox Live, donc qui paient pour avoir accès au service Xbox Live, ils vont intégrer dans le dashboard directement de la publicité en disant encore que là, c'est pour guider l'utilisateur et lui ramener plus d'informations et enrichir l'expérience utilisateur. Donc, c'est vraiment un mouvement. On est passé d'un système où on finançait les softs gratuits avec de la pub et on enlevait la pub quand l'utilisateur payait à un système où l'utilisateur paye et en plus, il se tape de la pub, quoi. Donc, personnellement, si c'est vraiment ce qu'ils ont l'intention de faire avec le Kindle, bon, je trouve ça abject.
Ok, mais relou de service, il y a quand même un truc auquel tu réponds pas, c'est si jamais tu as le choix entre le Kindle à 400 €, parce qu'on dit quand même que tout le monde dit que le problème du Kindle, c'est qu'il est encore trop cher. Mais si on dit que tu as le droit au Kindle à 400 € ou alors le Kindle gratuit avec de la pub dans certaines parties des livres, toi, ça te parle pas du tout le Kindle. Oh là là, des Kinder gratuits, ça serait un rêve.
Kinder surprise.
Alors, on a trouvé un petit sponsor.
Kinder gratuit, ça serait franchement. Mais donc, soit ça te parlerait pas du tout le Kindle gratuit s'il y a des pubs. Tu restes dans tes bottes, c'est abject.
Ça dépend du volume d'informations que je lis. Enfin, moi, comme je l'avais déjà dit, je suis pas fan du Kindle, mais si effectivement je lisais beaucoup sur Kindle, je prendrais la version payante, c'est-à-dire la version dépourvue de pub. Parce que le Kindle, je le rappelle, hein, t'appuies sur un bouton pour changer de page. Si toutes les 10 pages tu te payes une pub sur Kinder justement ou n'importe quoi pour pouvoir passer à la page suivante, franchement c'est comme si tu regardais la télé, tu commences à lire un film et puis au bout de 10 pages t'as une pub qui reste là avec un timer de 30 secondes, c'est chiant.
Ça peut être une petite partie de la page en bas à droite ou ce genre de choses, et d'autre part l'analogie que tu fais est quand même parlante parce que c'est comme la télé est quand même un système qui est plutôt qui marche plutôt pas mal et qui génère pas mal d'argent et pas mal de plaisir chez les téléspectateurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu es tout à fait pour ce système si Amazon veut se faire de l'argent.
Comment il a retourné le truc.
comme dit Jérôme dans la chatroom, on a l'habitude. Imagine, tu lis le New York Times ou un quelconque hebdomadaire.
Le Figaro, Le Monde, Le Nouvel Obs.
T'as l'habitude de voir des pubs,
Tu peux tourner la page, alors que le Kindle c'est entièrement électronique. Donc
on sait pas comment ça va fonctionner. On est en train de faire de la spéculation de haut vol. On ne sait pas du tout. Hein. Mais je crois que la raison pour laquelle les gens avaient une réaction un petit peu épidermique, c'était pas tellement pour les magazines, mais plutôt pour les livres en eux-mêmes. C'est-à-dire que pour un magazine encore, on s'en fout, New York Times, machin, il y a pas de souci. Si dans ton dernier Jane Austen, tu es envahi par des pubs pour de l'huile solaire et ce genre de choses, bon, effectivement, c'est un petit peu plus gênant. Bon, ce sont les spéculations. Il y a une autre histoire qui a fait vibrer Internet ces deux dernières semaines et même cette dernière semaine. C'est la question de Pirate Bay qui aurait été vendu à une société qui s'appelle Global Gaming Factory pour presque 8 millions de dollars. C'est une histoire super bizarre. Et Yann, comme t'aimes les histoires bizarres, je vais peut-être te laisser nous en parler.
Ah, écoute, pour tout dire, j'ai pas complètement suivi cette histoire-là. Je vais peut-être passer le relais à Jeff s'il en a entendu parler. Je... Puisque, j'ai
deux, trois trucs à dire, mais pas grand chose, quoi, en fait, sur cette, celle-là.
Non, bah, je vais
non. Faire, c'est en Europe, donc, ce truc, moi, je connais pas. Non, j'ai vu la news, mais j'ai pas.
Ouais. Bah en fait, c'est simplement ce que j'ai dit. En fait, ce qui est surprenant, c'est que le Pirate Bay, qui est la société, enfin le site web de partage de fichiers souvent illégaux, qui était en procès et qui a été condamné il y a quelques semaines à peine, a annoncé qu'ils avaient vendu le site à une société. Et il y a plusieurs questions qui se lèvent à ce moment-là. La première étant ils se sont évertués à montrer pendant leur procès qu'il n'y avait pas une personne responsable, que The Pirate Bay n'appartenait à personne, qu'ils géraient ça de manière complètement collégiale et anarchique. Et tout à coup, là, quand il faut le vendre, eh ben, on peut le vendre. Ensuite, il y a le fait que c'est un petit peu une trahison de leurs fans, parce qu'ils étaient les champions de la gratuité et du combat contre le système. Et là, tout à coup, ils le vendent. Et encore la dernière controverse, c'est que il y a une interrogation sur ce que va devenir ce site. Les propriétaires, enfin les fondateurs assurent que rien ne va changer, mais la société qui a acquis le site a commencé à parler et à dire il faut trouver un nouveau business model qui réussisse à rémunérer à la fois les ayants droit et on veut même essayer de rémunérer les gens qui téléchargent. Enfin, c'est pas non plus hyper inquiétant encore aujourd'hui, mais c'est suffisamment un langage suffisamment corporate pour qu'on se pose des questions, quoi. Il y a visiblement un petit changement de direction, et c'est surtout important parce que c'était tellement emblématique comme symbole de Pirate Bay que là, du coup, on sait plus très bien où on va. À côté de ça, les fondateurs, les fameux fondateurs suédois de The Pirate Bay, ont commencé à lancer d'autres projets, et nous, notamment The Video Bay Torrent, qui est un truc qui vous permet de faire du streaming à partir de Torrent directement, qui est encore en bêta, mais eux, ils assurent qu'ils ont d'autres choses dans les cartons et qu'ils vont pas s'arrêter. Et a priori, il n'est pas impossible qu'ils essayent de se distancier de The Pirate Bay, qui est un petit peu en eau trouble vis-à-vis de la justice, et qu'ils se disent bon bah voilà, on refile le bébé, ils en font ce qu'ils veulent, et nous, on va partir vers d'autres projets un petit peu nettoyés du stigma de The Pirate Bay. Donc voilà, en gros.
Bah, c'est un peu ce que Kaza avait fait et est devenu Skype, quand tu réfléchis bien.
Bah, en fait, les fondateurs de Kaza avaient lancé Skype, mais effectivement, ils s'étaient débarrassés du bébé, ils l'avaient vendu à je sais plus qui, et Kaza a sombré tout seul, et eux, ils ont continué avec un avenir brillant avec Skype. C'est tout à fait possible qu'ils soient dans la même optique, quoi.
Ouais. Ben, comme on parle justement de piratage, on peut pas parler de piratage sans mentionner une news assez intéressante. C'est la victoire de la RIAA. Donc, j'ai pas un accent anglais aussi bien aiguisé que ceux de mes deux co-animateurs, mais la RIAA, c'est la Recording Industry Association of America. Donc, globalement, notre SACEM à nous. Et ils ont remporté, donc, une victoire contre Usenet.com. Donc, Usenet.com, c'est, alors, comment expliquer ça simplement? C'est globalement un site qui permettait à des utilisateurs moyennant finance de se connecter à leur serveur pour télécharger du contenu illégalement, donc via un protocole Usenet.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
À la base, voilà. Usenet est un réseau qui permettait surtout de discuter, qui est très très vieux, l'un des plus
exactement.
Vieux réseaux d'Internet.
Exactement, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et donc, effectivement, c'était dédié à ça, mais bon, ça a dérivé, c'est devenu aujourd'hui un endroit où on trouve tous les derniers films, tous les derniers jeux vidéo, etc. Et donc, bien évidemment, Sony, Warner, Virgin, ils sont tous montés au créneau et ont déposé une plainte en 2007. Et aujourd'hui, donc, le jugement est tombé, et donc, Usenet
site a été usenet.com, il faut bien préciser .com puisque c'est différent de usenet. Bref, ils ont été condamnés et retenus donc coupables, et il y aura une forte amende qui a été qui va être exigée. On connaît pas encore les montants, mais ce qui est important de savoir, c'est que là encore, c'est un nouveau pilier du piratage qui est en train de tomber. Il y a eu Pirate Bay, maintenant ils s'attaquent directement au newsgroup. Alors pour le moment, c'est juste la société qui a été inquiétée. On n'attaque pas les gens qui sont passés par ce service, donc pour leur demander des remboursements, etc. C'est la société Usenet qui va être inquiétée, qui va devoir payer l'amende. Mais c'est quand même inquiétant pour les gens qui piratent, bien évidemment, de voir que finalement tous ces piliers sont en train de tomber. Et moi, la question que je me demande, c'est finalement, avec tous ces jugements en faveur de la RIAA, est-ce qu'ils vont pas finalement réussir à tous les faire tomber? Est-ce que demain, on n'aura pas un Internet complètement dépourvu de ces sites fournissant du contenu illégal? Puisque aujourd'hui, malgré toutes ces nouvelles technologies qu'il y a, le problème, c'est qu'on a toujours un point central, on a toujours un serveur central que ces gens peuvent attaquer directement. Et tant qu'on aura un système centralisé, ce sera facile pour eux de déposer une plainte et de faire tomber le site. Et bien évidemment, ça va inquiéter tous les autres, quoi. Quand Usenet est en train de tomber, forcément les sites comme Giga News, ils vont commencer à s'inquiéter, peut-être même fermer leurs portes. Et donc on risque finalement de se retrouver dans une situation où demain on ne pourra plus télécharger illégalement. C'est sûrement une bonne chose, mais c'est quand même impressionnant. Au début, personne n'y croyant, on dirait, mais non, mais ils vont jamais réussir à tout faire fermer. Aujourd'hui, c'est quand même une question que je me pose. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jeff? Tu penses qu'ils peuvent y arriver ou pas, à faire fermer tous les sites comme ça?
Je pense pas qu'ils arrivent à limiter. Je pense qu'ils arriveront à limiter l'effet du piratage à très large bande, c'est-à-dire aujourd'hui, des sites comme Usenet, comme GANnews, etc., te permettre d'accéder à quasiment tout ce que tu peux pirater, et il y a des dizaines de millions d'utilisateurs de ces trucs-là. Donc en les attaquant, sachant que c'est là où tu as le plus de trafic, clairement la RIAA, comme on l'appelle ici, fait fort. Faut savoir que ils iront chercher les utilisateurs individuels, puisque c'est quand même eux qui ont attaqué des dizaines de milliers de surfeurs internet pour leur activité soi-disant de download, et ils sont fameux pour avoir envoyé des procès à des gens qui étaient morts, à des grands-mères, enfin des gens qui étaient clairement pas les instigateurs de ce piratage. Ils ont aussi envoyé aux ISP, donc les fournisseurs d'accès internet, des mandats de justice de manière à accéder aux comptes, aux informations des comptes, etc. Donc ils n'ont pas peur c'est même pas le ridicule, ils n'ont pas peur d'aller chercher les gens qui sont selon eux responsables. Ouais. Et donc ils essaient. Malheureusement, l'industrie de la musique et de la vidéo, du cinéma sont assez retardés. Ouais, et donc ils vont pas essayer de voir comment ils peuvent tirer parti de ces nouveaux moyens de communication, de ces nouveaux moyens de distribution. Et donc ils vont utiliser des moyens légaux pour essayer de limiter ça. C'est dommage, parce que s'ils avaient travaillé, regarde un petit peu l'effet d'Apple avec iTunes, la distribution chanson par chanson, etc. Et l'effet que ça a eu pour eux. Bon, c'est ce qui les maintient quelque part aussi dans le business, parce que le reste des ventes d'albums a vraiment diminué, quoi. Donc je sais pas, c'est dommage.
Ceci dit, j'aimerais faire moi une petite précision quand même. Il faut pas confondre Usenet.com et Usenet tout court, c'est-à-dire que les newsgroups existent toujours. Là, c'est le site en lui-même qui est tombé, et il faut préciser que le site s'est très très mal défendu. Il y avait énormément de choses qu'ils n'ont pas fait au niveau légal pour se défendre. Il y a des preuves et des choses que les juges ont demandé qu'ils n'ont pas présentées. Enfin, ils se sont débrouillés un petit peu comme des manches, et il n'est pas surprenant que le jugement ait été en leur défaveur dans ces conditions. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré la fin de Usenet et des newsgroups. Cet ensemble, ce réseau souterrain n'est pas mort, c'est uniquement le site qui est condamné.
Ouais, mais ça risque de faire jurisprudence quand même.
Ouais, je suis d'accord. Enfin, oui et non, parce qu'il y a, comme je te dis, le procès a été mené de manière un petit peu hasardeuse. Mais ouais. Pour prendre la question un peu plus large que tu posais, Yann, est-ce qu'ils vont finir par réussir à arrêter le piratage, je crois que plus d'une fois, on a eu la preuve que c'était pas possible et que plus il faisait fermer certains services, plus les pirates et les développeurs développaient des systèmes encore plus difficiles à traquer. On va pas refaire toute l'histoire, mais il y a eu on est passé de Napster qui était centralisé à Kazaa, à Emule et Kazaa et ce genre de trucs qui étaient moins centralisés, à Pirate Bay, à BitTorrent, etc., etc. Et à chaque fois, c'est plus difficile. Moi, je pense pas qu'ils y arriveront, mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira. Et une petite note entre parenthèses pour parler de Adopi 2, qui va être représenté bientôt, et pour dire que ils n'ont tenu aucun compte des recommandations du Conseil constitutionnel. Donc, il y a fort à parier que la deuxième version de la loi, ou la troisième, selon les comptes que vous faites, soit rejetée elle aussi. Donc, voilà. Quand on dit que les vieux ne comprennent pas et n'apprennent pas, et ben on en a une fois de plus la preuve. Une autre histoire dont je voulais parler et qui est assez intéressante, voire impressionnante, c'est l'histoire du kidnappage de David Rodd. David Rodd est un journaliste qui travaillait pour le New York Times et qui a été enlevé. Je veux pas dire de bêtises, je crois que c'était en Irak, mais je vais quand même vérifier. C'était en Irak ou en Afghanistan? C'était par les talibans, donc a priori c'était en Afghanistan. Il a été enlevé donc il y a 7 mois. Et pendant 7 mois, le New York Times a travaillé d'arrache-pied pour cacher le fait qu'il avait été enlevé. Et l'info n'est jamais sortie nulle part, ni sur Internet, ni sur Internet, ni dans les médias traditionnels. Disons que dans les médias traditionnels, on peut comprendre comment ils ont fait la chose. Ils ont appelé les gens pour essayer de contenir l'information et on a des gens à qui parler directement. Donc, c'était possible de leur demander de ne pas publier l'information. Par contre, sur Internet, il y a des choses comme évidemment Wikipédia, l'information ressortait de... une petite précision. Ils ont caché l'information pour ne pas que la valeur de ce journaliste augmente auprès des terroristes et qu'ils ne se sentent pas en position de force. Évidemment, si la valeur d'une personne augmente, on a plus tendance à en faire quelque chose de public, à le retenir, voire à faire une exécution publique ou ce genre de choses, ou demander énormément d'argent que personne ne pourra payer. Donc, pour ce qui est de Wikipédia, il y a eu des gens qui essayaient de mettre l'information en faisant des recoupements, en disant « voilà, cette personne a été enlevée ». Et ils venaient rechanger l'information pour enlever le fait qu'il avait été enlevé régulièrement. Et ils ont fini par contacter carrément l'organisation Wikipédia pour leur expliquer la situation et leur dire « s'il vous plaît, bloquez la page ou démerdez-vous pour que l'information ne sorte pas, parce que sinon David Rodd est effectivement en danger ». Et ils sont allés jusqu'à changer l'information sur Wikipédia pour dire qu'ils écrivaient des articles favorables à l'islam et ce genre de choses, vraiment pour essayer de le protéger au maximum dans les médias. Alors, évidemment, on est terriblement partagé par rapport à ce genre de choses, parce qu'on ne peut qu'être satisfait de la manière dont ça s'est passé, puisqu'il a été relâché et que il est maintenant sain et sauf, certainement en partie grâce à ce contrôle de l'information. Mais d'un autre côté, on se dit, si on a changé volontairement les informations et manipulé les informations de Wikipédia, là c'était pour une bonne cause, mais quid du jour où on aura quelque chose d'un petit peu plus discutable? Évidemment, on va dire non, si jamais c'est quelque chose d'horrible, le gouvernement qui dit il faut faire ça comme ça parce que un tel a dit du mal du gouvernement et là il faut pas dire qu'on l'a arrêté. Évidemment, ça se produira pas, mais imaginons qu'ils veulent changer les informations sur un pays ennemi évidemment on peut imaginer énormément de dérives de ce genre-là. Moi, ça me laisse perplexe. Je suis content que David Rodd soit sain et sauf. Vous en pensez quoi, tous les deux?
Eh bien, en ce qui me concerne, moi, je trouve que
Wikipédia, en même temps, c'est un outil qui est communautaire. Donc, c'est pas la première fois qu'on a des informations erronées sur Wikipédia. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est pas comme si c'était, le lieu unique où la vérité était définie. Donc, qu'il est modifié pour pouvoir permettre à ce cher David Roth de s'en sortir. C'est
oui,
tant
là,
mieux.
Mais là, c'est quand même Wikipédia, l'organisation en elle-même, qui a imposé les modifications. C'est pas juste que les utilisateurs y sont allés par eux-mêmes.
Oui, mais au final, c'est que moi, en tant qu'utilisateur lambda, j'ai envie de me renseigner sur ce gars-là, je vais trouver une information qui ne sera pas forcément juste parce que je suis sur Wikipédia. Donc
Tu t'attends pas à avoir quelque chose de 100% juste sur Wikipédia de toute façon.
Exactement, ouais, tout à fait, voilà. Ouais. Maintenant, si jamais j'ai une information sur... Si dans le journal de 20h, on me balance une information erronée sur CNN ou n'importe quoi. Là, c'est différent. Sur le New York Times ou des trucs comme ça, je m'attends à ce qu'il y ait un certain nombre de contrôles qui sont effectués. Et là, ça me dérangerait plus. Mais sur Wikipédia, non, ça va.
D'accord. Ouais, mais là, je suis pas d'accord avec ta dichotomie parce que, en fait, ce sont des outils de démocratie. Et en fait, tu essaies de te poser la question de est-ce que tu peux altérer la démocratie d'un outil tel que Wikipédia quand tu vas faire face à des situations qui sont par définition non démocratiques. Et je pense que même si je comprends pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, et je veux pas dire attention, ils auraient pas dû le faire, je pense que là ça a marché, bon bah tant mieux, il a été libéré. Je pense que si les GUS, si jamais ça arrive à quelqu'un d'autre qui n'a pas de relation directe avec Jimmy Wales, je pense que tu peux te brosser, il n'y aura pas de révisionnisme en quelque sorte de la vérité faite au niveau de Wikipédia, ou en tout cas le travail qu'ils ont dû faire pour bloquer toutes ces éditions. Je vois pas en fait la différence entre Wikipédia d'un côté et CNN et New York Times de l'autre, parce que justement ce sont des outils où le fait que tu puisses en tant que contributeur aller modifier une page, être effectivement géré par des éditeurs, mais tu vas pouvoir modifier les pages de manière à exprimer une certaine vérité. C'est un outil de démocratie, donc je pense que ça, je veux pas dire qu'ils ont eu tort de le faire, tant mieux, il a été libéré, mais ça pose la question, ça donne un énorme pouvoir en fait aux gens qui ont Wikipédia en contrôle, et c'est souvent ce qu'on a reproché à Jimmy Wells, c'est que il va dire voilà les grands principes, voilà pourquoi est-ce que c'est là, et c'est un outil de démocratie, et puis derrière tu vois il va mettre en place certaines éditions d'informations à son sujet, à propos de ses copains, etc., qui sont toujours un peu limites, quoi.
Ouais. Bon, je vais laisser les commentaires tels quels. Effectivement, moi, je suis un petit peu perplexe, mais vous aurez eu un petit peu les deux avis. C'est bien qu'on s'en tienne à ça pour ce sujet. Et là, je me tourne vers Yann, qui veut nous parler un petit peu de Apple, sa société préférée.
Ouais, je vais faire un petit peu mon Mathieu Blanco. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est des petits potins, comme on les aime bien, c'est qu'Apple et Nvidia, apparemment, ils sont en train de se fâcher. Pour la petite histoire,
Nvidia étant le fabricant de cartes graphiques qui équipe aujourd'hui la majorité
des MacBooks. Ouais. Ouais, tout à fait. Nvidia équipe notamment avec la puce 9400 et 9600M, je crois. C'est eux qui équipent la puce des MacBooks, et c'est sûrement Jeff on en a une également dans son MacBook flambant neuf.
Tout à fait, dans mon nouveau unibody tout neuf que je caresse.
T'en es content ? T'en es content ?
Ah, c'est une machine absolument magnifique avec une batterie monstrueuse. Enfin, moi je l'ai vu durer à peu près 5h30, 6h en utilisation relativement intensive. Et c'est vrai que la carte Nvidia, qui est en gros un dual GPU où on va avoir la 9400 qui va être un peu moins grosse qualité, d'un peu moins bonne qualité, mais qui va avoir une grande longévité au niveau batterie, ou la 9600M qui va avoir une qualité de graphique monstrueuse, mais qui va avoir un hit sur la batterie. C'est une très très bonne combinaison. Et objectivement, quand dans Chatwrath t'es à 60 FPS, tu es content.
600 FPS dans World of Warcraft.
Dalaran, qu'est-ce que je raconte même pas.
À 600 FPS.
60 FPS.
Ah, d'accord.
60. Ok. Globalement, ce qui se passe, c'est que Nvidia a envoyé donc un nouveau contrat pour renouveler finalement avec Apple. Et Apple a jugé un petit peu les mots qui ont été mis dans ce contrat comme étant plutôt arrogants, vantards, on dira l'arroseur arrosé. Et finalement, Apple a répondu de façon assez virulente à Nvidia en leur disant globalement, écoutez, puisque c'est comme ça, on se reparle dans 3 ans et on verra si vous existez encore. Donc apparemment, c'est quand même la guerre froide entre eux. C'est encore du domaine de la rumeur. On n'a pas vu les documents et tout, mais apparemment, il y a déjà des frictions qui existent depuis l'affaire de la puce 8600M qui aurait provoqué des distorsions d'image dans les précédents produits d'Apple qu'avait équipé Nvidia. Et donc, là encore, il y a un problème de communication entre les deux constructeurs et ça laisse penser que d'ici quelques temps, Apple pourrait vraisemblablement abandonner les chipsets d'Nvidia pour se tourner vers ceux d'Intel. Et donc, ça pourrait arriver incessamment sous peu. Et moi, personnellement, j'essaie de trouver.
C'est les effets d'Apple sur Yann. Attends, je vais faire un truc qui va te détendre un petit peu. Ça va te calmer normalement.
Essaye de te retrouver ta boîte à outils.
Damned.
Non, mais en fait, j'essaie.
Bon, séquence Apple. Celle la même où on critique. Oui. Celle qui ne fera pas plaisir à Mac JT.
Excellent, j'avais oublié celle-là. Non, mais en fait, j'essaie de terminer sur une note positive puisqu'on me l'a reproché d'être toujours négatif. Mais globalement, moi, je pense que c'est assez intéressant. Surtout, la puce Nilem d'Intel a l'air vraiment très prometteuse. Et donc, moi, je pense que ce serait une bonne chose que Apple abandonne Nvidia puisque c'est vrai qu'ils ont quand même la réputation d'être assez arrogants, surtout depuis qu'ils ont distancé ATI depuis quelques temps. Donc, ça fait plus de concurrence, c'est sympa, quoi.
Ok, on va laisser cette info là. Moi, je trouve ça marrant les histoires de potins, genre on se retrouvera dans 3 ans si vous existez encore.
Bon, ouais, c'est balèze quand même.
À propos d'Apple, puisqu'on est dans le bain, je voudrais vous parler d'un petit truc. On commence à être un petit peu long, mais c'est pas grave, c'est un sujet intéressant. Il y a certaines personnes, et notamment TechCrunch, qui est un blog de nouvelles technologies assez influent en anglais. Qui parle de la vraie révolution qu'amène Apple dans le segment des téléphones portables, qui porterait plus sur la vidéo, la capture vidéo de très bonne qualité, que sur l'ensemble du téléphone. En fait, le vrai apport qu'il y a eu avec l'iPhone 3GS, c'était le fait de faire de la vidéo, et il est très possible que cette caméra vidéo arrive également sur l'iPod Touch, et à partir de là, ça ferait trembler dans leurs bottes tous les fabricants de caméras, en fait. Parce que c'est vrai que la vidéo sur le 3GS est de qualité très correcte, et on avait des chiffres notamment comme YouTube qui annonçait qu'à la suite de la mise en vente de l'iPhone 3GS, le nombre de vidéos qui étaient uploadées, qui étaient envoyées sur leur site, avait augmenté de 40% du jour au lendemain. Ce qui est phénoménal, et en fait ça met l'utilisateur et la vidéo entre les mains de l'utilisateur de manière très très imposante et très simple à utiliser. Moi, je pense que c'est quelque chose de super intéressant à avoir. Ça peut ouvrir des utilisations très intéressantes au point de menacer les fabricants de caméras, peut-être un peu beaucoup, mais c'est vrai que c'est une sorte de révolution sourde qui est en train de se faire et qui risque d'y avoir énormément une grosse influence du fait d'avoir une caméra vidéo dans son appareil, de la même manière qu'on a un appareil photo dans tous ses appareils. Ça vous parle, vous, la vidéo ou...
Oui, parce que disait Paris Lemon, donc c'est le compte Twitter de MJ Sigler, le writer de TechCrunch qui a écrit ça. Le flip qui s'est vendu très récemment pour plusieurs centaines de millions de dollars. En gros, pour moi, ils ont fait leur exit.
Le flip, c'est une mini caméra, une petite caméra qui était très bonne qualité et qui a eu un gros succès dans les milieux tech.
et qui permettait de faire un upload assez simple où tu la plugs en USB et ça part sur YouTube. Et je pense qu'effectivement, le truc qui m'a vraiment super étonné avec le SwiftJS, ça a été la qualité de la vidéo. C'est-à-dire que quand je l'ai eu, je me dis, bon, ok, machin, moi ce qui m'intéresse, c'est que ce soit plus rapide, j'ai plus de mémoire, etc. Bon, de toute façon, je suis un fanboy, donc j'achète tous les téléphones qui sortent. Et donc, quand j'ai essayé la vidéo, j'ai été vraiment bluffé par la qualité. Effectivement, le fait qu'une fois que tu finis ta vidéo, tu peux l'uploader directement sur YouTube d'un clic, c'est super pratique. Ça encode, ça balance, etc. Au bout de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est fait. Et ça simplifie de façon monstrueuse tout le processus, parce que le problème bien souvent c'est de dire bon ok, je prends ma vidéo, il faut que je la mette sur mon PC, il faut que je l'encode, il faut que je la balance, il faut que je mette... Non, tout ça c'est fait en un écran et un clic. Et donc ça m'étonne pas du tout qu'au bout de quelques jours, YouTube ait reporté qu'ils ont vu une augmentation des uploads qui est monstrueuse. À leur niveau, c'est YouTube quand même, donc c'est quelque chose qui est vraiment significatif. Et c'est vrai que maintenant, je fais un peu plus de vidéos. Enfin, je pense à prendre de la vidéo là où, plus typiquement, j'aurais pris des photos.
Ouais. Bah moi, j'attends vraiment avec impatience le jour où j'aurai mon 3GS et également, évidemment, le jour où j'aurai mon... où il existera des moyens simples de tweeter des vidéos, parce que finalement, c'est un moyen de diffuser l'info facilement, mais pour des gens qui font de la diffusion de médias comme nous, c'est un outil invraisemblable, quoi. Ça permet de faire des choses vraiment intéressantes et de développer un nouveau type de communication auquel on ne pensait pas forcément avant. La simplicité est effectivement, encore une fois, dans les mains d'Apple, un outil qui popularise une technologie et des possibilités intéressantes, quoi.
Ça, tu vas l'avoir très rapidement, parce que, à mon avis, YouTube va te donner la possibilité, lorsque tu as poussé une vidéo, de la tweeter. Je crois même que c'est déjà disponible. Tu vas avoir des applis genre YFrog, qui est l'application de ImageShack, qui est un énorme photo hoster qui va faire ça aussi. Donc je pense que
tous sont aussi en train de se mettre à jour avec la vidéo. Hein. Tous les sites d'hébergement de photos sont en train de faire de la vidéo maintenant.
Bien sûr. Et tu as aussi tweetvid.io, tweetvid.com, qui sont deux compétiteurs, qui sont des tweeters de la vidéo. Bon, le problème, c'est que c'est des petites startups qui ont 3 francs 6 sous en funding. Et quand tu vas gérer de la vidéo, je peux te dire que ça
c'est
coûte cher.
C'est le même problème, ouais, c'est sûr.
Et donc, quand ils vont s'apercevoir que la moitié de leur coût, très rapidement, c'est de gérer la bande passante, enfin de payer pour la bande passante, et que plus ils ont de succès et plus ça coûte cher, ils auront un gros oups moment.
Ouais, c'est sûr.
Mais,
tout ça pour dire, pardon, je te laisse finir.
Mais en tout cas, c'est vrai que la révolution qui n'a pas été véritablement commentée, c'est le fait que maintenant, l'iPhone 3G, ce soit vraiment une caméra pour la vidéo qui est plus que raisonnable. C'est vraiment très très bon.
Ouais.
Désolé, ça m'a échappé.
Non, mais on verra quand on aura tous des iPhone 3GS et qu'on se mettra tous à s'envoyer.
Je vous prêterai mon iPhone, vous pourrez jouer avec vendredi quand on fait notre dîner.
Je l'ai déjà vu le 3GS, hein. Moi je l'aime beaucoup, j'ai un ami qui l'a. Enfin bref. La dernière chose avant de passer au quart d'heure Twitter que tout le monde attend, c'est la précommande de Windows 7, une information importante. Pour ceux qui voudront précommander Windows 7, c'est possible du 15 juillet au 14 août à seulement 49€ pour la version Home Premium, donc la version que tout le monde aura. Sachez qu'il y en a seulement une quantité limitée, quelque chose comme 76 000. Ce qui est une quantité parfaitement ridicule. Donc, attendez que j'ai eu la mienne et après, allez prendre la vôtre. Voilà, on va dire ça comme ça. Et Yann avait un commentaire à propos de Snow Leopard de Apple que je...
Non, mais en fait, le truc qui... À chaque fois qu'on parle des 49€ que vont coûter Windows 7, t'as tous les fanboys d'Apple qui disent « Ouais, mais Snow Leopard, il va coûter 29€. » Mais faut arrêter, les gars. Snow Leopard, c'est un service pack.
C'est 29 dollars.
Hein, c'est un service pack. Le truc, c'est pas un système d'exploitation. Donc, moi, franchement, ça me fait doucement rigoler, quoi. Quand on essaie de comparer Windows 7 et Snow Leopard en termes de features et de
fonctionnalités,
de gap,
quoi.
de gap, de fossé qu'il y a entre Windows Vista et Windows 7 et Tiger et Snow Leopard, c'est pas comparable, quoi. Donc, je trouve que c'est un bon système.
Je pense que si Mathieu était là, on aurait un débat interminable sur la nature service packienne de Windows 7, mais là, on va.
Ouais, moi j'allais dire, mais attends, Tiger et Leopard, ça marche très bien, hein. T'as pas besoin d'upgrader, alors que si t'as Windows Vista, t'attends qu'une chose, c'est que Windows 7 ça sorte de manière à pouvoir...
Moi j'ai Windows Vista et j'en suis très content. Je sais qu'on n'est pas nombreux, mais moi j'en suis très content.
Bah, moi j'en suis très content aussi. Mais en plus, ce qui me désole, il y a un truc, hein, c'est juste le dernier truc que je vais rajouter, c'est que souvent les fanboys d'Apple disent « Ouais, mais Mac, moi j'ai mon Mac d'il y a 4, 5, 6 ans, tout fonctionne encore nickel dessus, et j'ai pas besoin de changer de machine tout le temps. » Ben, aujourd'hui, avec Snow Leopard, et ça ne fonctionne que sur les processeurs Intel, et adieu les PowerPC. Et je pense
les derniers PowerPC ont été vendus il y a 4 ans ou 5 ans ou un truc comme ça.
Moi j'en ai un, donc ça me fait chier. Ça m'embête vraiment de ne pas pouvoir avoir Snow Leopard, mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même admettre quand même que c'est sympa. Qu'avec Windows 7, enfin que Microsoft s'engage quand même à garder la rétrocompatibilité et ne coupe pas comme ça avec une génération de processeurs. On a toujours une rétrocompatibilité, et ça c'est sympa, quoi, avec les systèmes de Microsoft. Bon, donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter.
Moi, je vous coupe avec...
Comme si tes babas vieilles d'il y a 4 ans elles pouvaient faire tourner Windows Vista.
Absolument, monsieur. Oui, tout à fait.
N'importe quoi. J'ai même pas essayé d'upgrader ma pauvre tablette PCX41 sous Windows Vista parce que je sais que ça marcherait pas.
Bah, essaye et tu verras.
J'ai essayé de lancer le jingle Twitter, mais j'y arrive pas.
La minute, le quart d'heure, bon, ben la demi-heure Twitter.
Voilà, on finit par y arriver. Donc, le quart d'heure Twitter. Une petite histoire encore damnette, je perds mes mots. Des histoires marrantes sur Twitter, un petit peu comme les commérages entre Apple et Nvidia. Là, il y a des histoires magnifiques sur Twitter entre Microsoft et Linux qui s'aiment sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire. C'est, en fait, il y a Microsoft qui a créé un compte officiel sur Twitter et Linux, le système d'exploitation concurrent, existait déjà avec un compte sur Twitter. Et quand quand Microsoft est arrivé, Linux a dit... a envoyé un tweet en disant « Bonjour Microsoft, bienvenue sur Twitter !» Et Microsoft qui répond « Merci Linux, ça fait plaisir d'être avec vous !» Et c'est marrant parce que c'était également une histoire qui avait eu lieu entre Coca-Cola et Pepsi. Quelques semaines plus tôt, les gens de... Yoon Mac avait dit ça serait marrant qu'ils se parlent sur Twitter, Pepsi et Coca, les frères ennemis. Et Coca avait envoyé un message en disant bienvenue sur Twitter, on vous envoie un bonjour, un salut respectueux mais concurrentiel. Et Pepsi avait répondu aussi. Et moi, ça me faisait marrer d'imaginer les gens, tu sais, dans le board, à se dire merde, est-ce qu'on doit répondre, est-ce qu'on doit pas répondre, comment ça va être pris, on va avoir l'air de con si on répond pas, etc.
Donc, parce que tu crois que les gens du board de Coca, ils savent ce que c'est que Twitter?
Non, mais il y a bien le mec qui s'occupe du compte de Coca, il a dû demander quand même aux relations presse ou aux...
Qu'est-ce que je fais?
Bah, ouais, c'est ça. Tu penses pas qu'il
a demandé? Ouais, mais tu vois, typiquement, c'est là où c'est assez rigolo, en fait. C'est que je suis pas sûr que ce soit pas un clampin qui soit en charge du compte et qui y réponde et il le fait pas forcément en se projetant sur voilà ce que ça veut dire pour la marque, voilà l'impact, etc. Parce que typiquement, quand tu rentres sur ces nouveaux médias, c'est des gens qui sont un peu marginaux ou marginalisés par rapport à la communication traditionnelle des boîtes qui vont être en charge de ce genre de trucs. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu cet incident sur le compte Twitter de Google Maps où le jour de la mort de Sarah Fawcett et de Michael Jackson, un mec a tweeté « Ouais, si vous voulez vous changer les idées des news de la mort de MG et FF, regardez nos fonctionnalités autour de Google Maps, machin. » Et il a balancé ça. Et évidemment, qu'est-ce qui a vu ça le premier? C'est Michael Harrington, il leur a envoyé un scud. Et les mecs, au bout de quelques minutes, ont envoyé une excuse en disant « Pardon les gars, désolé, c'était pas du bon goût. » Et en fait, ils ont laissé le tweet, ce que je trouve un peu, ce que je trouve bien. Parce qu'ils auraient très bien pu le péter, quoi.
Ouais. Ok, bon, bah écoutez, on avait quelques autres petites histoires sur Twitter, mais on va abréger et passer à...
Non, on peut pas abréger Twitter. C'est déjà 140 caractères.
La séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Rumeur à la con, qui n'est pas vraiment une rumeur, qui est un truc dont on parle rapidement. Canal+ va arriver sur votre Xbox. C'est pas vraiment surprenant parce que Microsoft faisait des deals avec Sky aux États-Unis, en Angleterre, pardon, qui est un fournisseur de d'images satellites, enfin réseau satellite. Ben là, ils vont avoir un deal avec Canal+ et notamment pour le sport, donc des choses à la demande certainement. Bientôt des followers sur Facebook. Il y a un truc qui a l'air assez sympa, c'est que Facebook risque de vous autoriser à avoir des followers, c'est-à-dire cette histoire de suivi asymétrique comme il existe sur Twitter. Donc des gens qui vous permettraient, enfin un système qui permettrait qu'on vous suive sur Facebook sans que vous ne suiviez la personne en question. Moi je sais que ça m'aiderait beaucoup notamment. Mais bon, on n'y est pas encore, mais ça risque d'arriver. Ça continue dans la direction de twitterisation de Facebook qu'on connaît depuis déjà quelques mois, et ça montre l'influence de ce petit Twitter dont nous vous parlons depuis un moment déjà. Un autre changement, c'est que Facebook est en train de simplifier ses paramètres de sécurité, et là je dis mais enfin, c'est infernal les paramètres de sécurité de Facebook. Je sais pas si ça vous donne des boutons comme moi, mais moi ça me hérisse. Mmh.
Je sais pas, non, j'utilise pas Facebook, moi. Je suis pas fan.
Blasé, effectivement. un autre truc qui va blaser Yann, c'est le fait que Google ait ajouté du glisser-déposer dans Gmail, prouvant une fois de plus que les applications légères sont bien plus cool que les applications lourdes.
Ouais, bien sûr, parce que tout le monde sait que le glisser-déposer, c'est arrivé, ça fait à peu près une vingtaine d'années quand même sur les clients lourds. Donc c'est sympa de voir que le gros décalage entre les clients lourds et les clients légers. Non, mais c'est une blague, quoi. C'est comme le couper-coller, tout le monde applaudit quand ça arrive sur iPhone, alors que. Enfin bref, je vais encore m'emporter, mais c'est bon, on va pas faire une news parce qu'il y a du glisser-déposer sur Gmail, quoi.
D'accord.
On s'en fout.
Voilà, pour écoute. Bah si, c'est les gens qui sont sur Gmail, qui l'utilisent, sont très très contents.
Bah, l'avantage, c'est que ça a été mis à jour sans avoir besoin de mettre à jour et de télécharger un logiciel ou de mettre un patch ou de machin. Un jour, ils ont décidé, voilà, on a glissé, déposé, hop, ça y est, et c'est fait. Et je ne vais même pas te laisser répondre, et je vais foncer vers...
C'est bas.
La dernière nouvelle du jour, c'est le fait qu'il y a un chargeur universel qui a été... un accord qui a été signé entre les différents constructeurs de téléphones portables. On en parlait il y a quelques temps déjà, mais cette fois ça a été décidé, en tout cas pour l'Europe. Vous aurez pour tous vos téléphones portables un seul chargeur qui sera identique pour tout le monde et qui s'utilisera avec du micro USB en fait. Et la grande nouveauté, c'est que même Apple a dit oui, qu'ils allaient le faire, sauf
incroyable.
Que... Sauf que...
Ah, attention, quand même.
C'est pas qu'ils vont, ils vont changer le dock, c'est pas qu'ils vont faire autre chose que leur dock universel qu'ils utilisent depuis longtemps. Ils vont avoir un adaptateur pour pouvoir garder leur dock. Donc oui, vous aurez effectivement le port universel disponible, mais avec un adaptateur. Donc c'est oui, mais non. Donc c'est pas surprenant de la part d'Apple. C'est bien eux, ça ne nous étonne pas.
Ce que j'espère, c'est qu'ils vont... sûrement un adaptateur à 45 euros, sûrement. À un moment.
Mais ça, c'est pas grave, c'est ça le branding.
Ah, d'accord, ok.
Blanc, beau, petit et à 45 euros.
Tu vois l'adaptateur DVI vers VGA qui te permet de prendre ton superbe Mac Unibody et de le plugger à un télé ou un truc comme ça, et ben ça te coûte 29$ alors que tu peux l'acheter pour 11$ chez un truc coréen. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'Apple Store et tu l'achètes et tu embarques un magnifique sac que tu donnes à ta fille parce qu'elle adore les sacs Apple, et comme ça tu as profité de tes 29$.
Voilà, et c'est le... Ça. C'est, tu sais, c'est le genre de sac que tu es fier d'avoir à ton bras en fait, le sac tout blanc avec le logo Apple gris, que tu montres même s'il n'y a plus rien dedans. Voilà, c'est comme un sac de marque qu'on ne citera pas. Voilà, c'est tout pour les nouvelles de notre émission. On a la conclusion à laquelle on passe immédiatement avec l'explication d'Arnaud qui nous fait une explication cette fois-ci sur le débit. Parce qu'on parlait de débit et de bande passante et de ce genre de choses la dernière fois avec les histoires de fibres. Eh bien, il y a peut-être des gens qui ne savent pas exactement ce que c'est que le débit. Heureusement, Arnaud vient à la rescousse avec son explication et il nous dit, je prends ma respiration, vitesse, débit, bande passante, voilà des mots souvent employés et qui portent parfois à confusion. Pour faire simple, ce sont, dans la bouche de 80% des gens, des synonymes. En effet, lorsque la majeure partie des gens parlent de vitesse d'une connexion Internet, ils parlent de son débit. Mais le débit, finalement, c'est quoi ? Eh bien, c'est la quantité d'informations que votre connexion peut envoyer en débit montant ou recevoir en débit descendant, en une seconde. C'est pourquoi il est exprimé en mégabits ou mégaoctets par seconde. Imaginez votre connexion comme un tuyau d'eau pouvant vous rafraîchir, ces derniers temps ça ne ferait pas de mal. Eh bien, on peut dire que le débit de la connexion, c'est la largeur de ce tuyau. Plus il est gros, plus vous pouvez faire passer d'eau. Lorsque vous voulez visualiser une page internet sur votre PC par exemple, vous devez récupérer toutes les images qui composent cette page. Plus votre débit est important, plus vous pouvez recevoir d'images ou de morceaux d'images en une seconde et plus la page s'affichera rapidement. C'est pour cela que la majeure partie des gens appelle la vitesse. Excusez-moi, c'est pour cela que la majeure partie des gens appelle cela la vitesse, puisque visuellement c'est la vitesse à laquelle s'afficheront les pages internet, la vitesse à laquelle vous pourrez télécharger, etc. etc. Pourquoi bande passante ? C'est beaucoup plus compliqué à expliquer ici, mais retenez simplement que la bande passante et le débit sont liés par une formule mathématique complexe. La largeur de votre tuyau dépend beaucoup des paramètres comme sa technologie, cuivre, fibre optique, etc. par exemple. Et il nous donne le lien de son site jycomprendsrien.blogspot.com où vous trouverez de plus amples informations sur ce sujet et sur d'autres. Donc je vous rappelle le site d'Arnaud qui sera en ligne normalement au moment où cette émission sera disponible en podcast, c'est jycomprendsrien.blogspot.com. Vous pouvez aller là-bas pour voir plein d'explications que nous passons dans notre émission avec des détails un petit peu plus importants et on le remercie grandement pour ça. Et on passe ensuite, j'espère que ces explications vous ont édifié sur la bande passante, et je passe ensuite la parole à Yann qui va nous donner notre conseil logiciel de l'épisode.
Ben oui, alors ce mois-ci, enfin plutôt cette semaine, j'ai noté deux petits logiciels qui peuvent intéresser surtout les étudiants, dans d'autres circonstances, d'autres personnes aussi, c'est VirtualPC et VirtualBox. Ce sont tous les deux des logiciels qui permettent de faire ce qu'on appelle la virtualisation de systèmes d'exploitation. Globalement, à quoi ça va vous servir ? Ça va vous permettre, donc je répète le nom des deux applications, VirtualPC et VirtualBox. Ce sont deux applications qui vont vous permettre, dans votre Windows, de créer un autre Windows. Et ces deux Windows vont être complètement indépendants et vous allez pouvoir utiliser donc le Windows que vous avez créé dans VirtualPC ou VirtualBox, tout plein de petites choses. Par exemple, si vous avez un doute sur un logiciel, vous avez peur, par exemple, qu'il y ait un trojan, qu'il y ait un virus dedans et que vous avez peur de foutre en l'air votre système d'exploitation, ben, vous créez donc ce Windows virtuel dans VirtualBox ou VirtualPC et vous testez vos petits trucs à l'intérieur. Si tout se passe bien, ben, a priori, c'est bon. Si jamais le truc est déglingué que votre système ne fonctionne plus, ben ça vous permet comme ça de tester différentes applications sans pour autant mettre en péril votre vrai système d'exploitation.
Donc mais ça, c'est notre Florian c'est... dans la chat room. Notre Florian dit et si ça marche pas, il dit bah tu passes sur Mac.
Ben ouais, enfin sur Mac, il y a pas grand chose qui marche en même temps. Donc
c'est pas faux. Il y a peu de choses, mais bon, elles marchent, mais il y en a pas grand beaucoup. Mais voilà. c'est quand même un peu compliqué comme système à mettre en place. Est-ce que c'est pour tout le monde ou
Non, honnêtement, c'est pas compliqué puisque vous téléchargez l'application, vous faites suivant, et après, ben, quand vous voulez installer donc votre Windows à l'intérieur de Windows, vous mettez juste votre CD de Windows dans votre lecteur, comme si vous voulez l'installer, et vous faites suivant pour pouvoir installer le système. Donc, c'est assez simple. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est pour ça que je parlais surtout des étudiants en informatique, c'est que souvent, ben, vous voulez, on va vous donner des TP ou des exercices où vous allez avoir besoin de plusieurs ordinateurs. Donc, on va pas s'amuser à acheter plusieurs ordinateurs. Donc, ça vous permet de créer virtuellement plusieurs ordinateurs comme ça, et les mettre en réseau et de tester différentes de choses entre ces différents ordinateurs virtuels que vous créez. Finalement, tu avais peut-être réseau, ça. T'avais un petit peu raison, c'est un petit peu compliqué quand même, mais globalement bon, voilà.
C'est super pour les étudiants en informatique, mais ma mère, elle va peut-être pas installer VirtualBox demain, quoi.
Voilà, voilà. C'est surtout si vous avez peur de tester un truc sur votre vrai ordinateur, vous installez ça et vous êtes dans un environnement complètement clos et isolé, et ça vous permet d'avoir une petite sécurité, quoi. Donc VirtualBox et VirtualPC, c'est gratuit et ça vous permet de faire ce genre de choses. Voilà.
D'accord. Super. Ben merci Yann. Et notre site fantastique aujourd'hui, c'est dans ton chat. DTC, qui veut dire également d'autres choses, à ce qu'il paraît. Dans ton chat, en fait, c'est l'ancien Bash FR. Alors, pour ceux qui ont parlé de Usenet tout à l'heure, là, c'est un autre grand papy de l'Internet qui s'appelle IRC, qui est un réseau de discussion, le réseau de discussion le plus vieux de l'histoire, où les gens discutent depuis 20 ans. Et le site dans ton chat permet aux utilisateurs de mettre des conversations amusantes qu'ils ont vues ou qu'ils ont eues sur ce réseau. Et c'est une grande tradition, quand on a un truc plutôt marrant, d'aller le mettre là-bas. Donc il reste une collection énorme de conversations comme ça, souvent super marrantes, et le site est hilarant, on peut y perdre des heures.
Je me suis bien marré, c'était ouais, vraiment marrant.
Ouais. Ouais, il y a des trucs vraiment vraiment drôles, je vous le recommande. J'ai mis un exemple ici qui m'avait fait marrer, un exemple de conversation qui était Fab dit « N'empêche, je gère hein. ». J'ai eu mon brevet, mon bac avec mention, mon code, mon permis, tout du premier coup. J'ai jamais redoublé, j'ai été conçu pour réussir. Et sur ce, Kisa lui répond, comme si on t'avait démarré en mode sans échec en fait. C'est moche, mais ça marche.
Ouais, blague de geek en même temps.
Ouais. Ah bah c'est très technique. Hein. C'est souvent des gens, des développeurs, des étudiants en informatique, ce genre de choses. Mais franchement, il y en a pour tous les goûts. J'avoue que c'est moche, mais ça marche. Bah oui, c'est comme le mode sans échec. C'est fort. Donc voilà, dans ton chat, allez y jeter un petit coup d'œil si vous avez du temps à perdre entre deux réunions ou entre deux cours, vous vous marrerez un petit peu. Et on va passer donc à la dernière partie de l'émission, c'est-à-dire les commentaires iTunes, pour vous remercier encore une fois d'être si nombreux à nous laisser des commentaires sur iTunes. Vous savez que ça nous aide beaucoup à gagner en visibilité sur le site, et on en est là à 128 avis et 219 notations, la plupart à 5 étoiles. Donc c'est une sorte de consécration hebdomadaire que nous vivons sur iTunes. Merci, merci, merci à vous tous. Je vais juste lire un extrait du commentaire de Dio qui nous a dit « Merci pour ces bons moments passés en votre compagnie. Je trouve les embouteillages bien moins embêtants depuis que je vous écoute. Ne changez rien au ton. Rien n'est pire que de discuter des nouvelles technologies sérieusement. » Et là, j'avoue que je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire l'émission un petit peu autrement. Il faudrait qu'on essaye un jour. On se marrait au début en disant « Ouais, on n'est pas professionnel, on n'est pas sérieux, machin. » Il faudrait qu'on essaye de faire un truc sérieux un jour.
Ouais, avec le générique de TF1 et tout. Ouais, messieurs, bonjour.
Ouais.
Genre, ce serait marrant.
Et donc, la société Dell, cotée à temps au 440, a décidé de développer un appareil multimédia mobile. Enfin bon, oui, effectivement, c'est peut-être pas tout à fait pour nous.
Tu pourrais faire ça très bien.
C'est... ouais, si je prends changer... la voix qu'il faut.
Ah, je sais pas si j'écouterais Patrick, franchement.
Non mais attends, Jeff allait me faire des compliments là. Qu'est-ce que t'allais dire, Jeff?
Non, ah. Tout simplement que tu as un tel registre que tu serais tout à fait capable de le faire. Nous, il faudrait qu'on dégage, mais c'est pas grave.
Non, je pense qu'en fait, si je devais me reconvertir, je ferais un truc du genre les annonces de films. Tu sais, dans les trailers, dans les bandes-annonces de films, il y a les grosses voix américaines qui font...
Ouais.
In a world where Patrick is not alone, he faces the internet every 2 weeks in Le Rendez-vous Tech. Ça me paraît pas mal, ça. Bon, écoutez...
Tu fais bien, en plus.
Wow. Moi, je dis waouh.
Ah, merci, merci. Bon, bah écoutez, on va vous remercier, vous les auditeurs, de nous avoir écoutés une fois encore. Bah Yann, et on rencontre nous Jeff vendredi, puisque tu seras de passage à Paris.
Tout donc, à fait Thierry, pardon Patrick.
Donc c'est un mini au revoir cette fois-ci, on se retrouve dans quelques jours. Yann, comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur son site yannallais.com et sur Twitter @yannallais, c'est bien ça?
Exactement.
Y-A-2-N-A-L-E-T. Et vous pouvez voilà. trouver de toute façon tous les liens sur les dans les notes de l'émission sur le site. Jeff, vous pouvez le retrouver sur Twitter @Jeff. Effectivement.
Bah oui, comme...
Comme ça se prononce. Jeff, comme ça se prononce. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le nom NotePatrick, vous le savez bien. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui commencent à mettre leur compte Twitter avec Note. Et leur prénom, je trouve ça très
ouais,
drôle.
J'ai remarqué ça aussi. Ouais, tu as lancé une mode.
Ouais. Je me demande s'il y aura un jour un article Wikipédia sur Note quelque chose avec les origines de cette
initié
mode.
Initié par Internet. Patrick Déjà, Note machin.
Voilà, et pour les notes de l'émission dont on vous parlait à l'instant, vous allez sur le site qui est lrdv.fr. L'adresse email, c'est tech@frenchspin.com. Et on se retrouve dans 2 semaines pour l'émission numéro 13. Oh, mon Dieu, est-ce que ça portera malheur? Venez le découvrir avec nous dans la chatroom. Toutes les infos sont sur le site. Merci à tous. À très vite. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Allez, salut.
Bienvenue sur le rendez-vous tech. Vous écoutez le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juin de... Putain, on est en juillet. Saleté.
Allez, on la refait. Moi, qu'est-ce que c'est,
ça. Non, tu sais, tu prends une grosse respiration, tu bloques, tu fais le vide et tu...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.